L'émission que vous allez suivre maintenant n'est pas un direct. C'est une rediffusion.
Dernier appel pour les passagers du vol 3 Airlines. Prière de se présenter à l'antre de la Vibe. Embarquement immédiat. Choisissez votre place et installez-vous confortablement.
Classico. Classico. Votre émission qui traite des questions d'économie, d'entrepreneuriat et d'innovation. Et d'innovation. Classico, c'est le rendez-vous pour vous qui voulez construire le Cameroun. Classico, de lundi à vendredi, entre 10h et 12h, avec Nadine et Nonguet.
Baby, I like you so.
Bonjour à tous, bon début de semaine, heureuse de vous retrouver après un week-end de repos, je l'espère en tout cas, si ce n'est pas le cas, hein, j'espère que la semaine a commencé du bon pied et qu'elle sera à la hauteur de vos espérances. Nous en tout cas, on est parés au décollage, toujours prêts à répondre à l'appel des airs. Bienvenue en Classico, merci de vous installer confortablement et de prendre tout de suite connaissance de notre plan de vol.
Aujourd'hui en Classico, focus avec notre expert sur la taxe de vérification à l'importation. On vous plonge dans l'univers de la mode avec notre passagère du jour, Roselyne Foguila. Au marché aujourd'hui, on achète des arachides. Petite escale dans l'univers de Madame Bebo, enseignante. On book notre voyage par bus via Safe Ride, c'est l'innovation du jour. Et dans l'Afrique économie, il est question des entrepreneurs agricoles africains face aux barrières à l'export.
Une fois de plus, bonjour et bienvenue en Classico. C'est un plaisir de vous retrouver entre lundi et jeudi, hein, de 10h à 12h, pour parler d'économie, d'entrepreneuriat et d'innovation. Et avec la diversité d'experts que nous vous proposons cette saison, ce lundi, on va parler d'économie et principalement de la taxe de vérification à l'importation qui est entrée en vigueur depuis le 1er juillet dernier. Pour savoir exactement de quoi il retourne, on se retourne vers notre expert, Lucas Ayé.
L'expert dans Classico. Dans Classico.
La taxe sur la vérification à l'importation est entrée en vigueur le 1er juillet dernier au Cameroun. Bon, Nadine, concernant votre questionnement sur ce bouquet, nous disons tout simplement à l'endroit des auditeurs auditrices que une taxe, dans les moindres détails, c'est un prélèvement obligatoire effectué par l'État ou une autre collectivité publique sur les contribuables, c'est-à-dire les personnes physiques ou morales, dans le but de financer les dépenses publiques et les services publics. Et dans, d'une façon assez perceptive, les taxes sont une source importante de revenus pour les gouvernements et sont généralement utilisées pour financer des biens et services publics tels que l'éducation, la santé, les infrastructures, la défense et bien d'autres dépenses budgétaires liées au fonctionnement des autres sectoriels ministériels ou secteurs institutionnels de l'économie d'un pays. Et toujours dans le même ordre d'idée, les auditeurs et auditrices devraient savoir que les taxes revêtent des caractéristiques suivantes, notamment liées au prélèvement obligatoire, au financement des dépenses publiques, aux collectivités publiques, et aux contribuables. Maintenant, ça a essence spécifiquement des prélèvements obligatoires. Les taxes sont obligatoires, ce qui signifierait que les contribuables sont tenus de les payer sous peine de sanction. Quant au financement des dépenses publiques, les taxes sont généralement utilisées pour financer les dépenses publiques et les services publics. Et quant à l'existence au fonctionnement de la collectivité publique, les auteurs auditrices de l'emploi devraient savoir que les taxes sont prélevées par l'État ou d'autres collectivités publiques telles que les régions, les départements, les communes. Et s'agissant spécifiquement des contribuables, les auditeurs auditrices devraient savoir que les taxes sont également payées par les contribuables qui peuvent être que des personnes physiques ou des personnes morales, nécessairement des entreprises, associations et bien d'autres types d'organisations à but lucratif. Sauf que il existerait différents types de taxes, notamment la taxe sur la valeur ajoutée, essentiellement connue sous l'acronyme de TVA, qui est une taxe sur la valeur ajoutée aux biens et services à chaque étape de la production et de la distribution. Ajoutée au-delà de la taxe sur la valeur ajoutée, il y a l'impôt sur le revenu qui est considéré comme étant une taxe sur les revenus des personnes physiques et des entreprises. Et on pourrait également citer la taxe sur les sociétés, c'est-à-dire une taxe sur les bénéfices des entreprises disponibles ou existant sur le territoire d'un pays. Nous avons à ça également la taxe foncière, c'est-à-dire une taxe sur la propriété immobilière. Et en dernier ressort, nous pouvons également identifier la taxe sur les produits, c'est-à-dire une taxe sur les produits tels que les alcools, le tabac, les carburants et bien d'autres. Mais la taxation ou les taxes existent pour différents objectifs tels que financer les dépenses publiques, réduire les inégalités et influencer les comportements. S'agissant du financement des dépenses publiques, les auditeurs ou auditrices de volume 3 devraient savoir que les taxes sont utilisées pour financer les dépenses publiques et les services publics. Et dans toujours le même ordre d'idée, les taxes peuvent également être utilisées pour réduire les inégalités en imposant davantage des revenus élevés. Et en troisième ressort, nous avons l'idée selon laquelle les taxes peuvent être également utilisées, Nadine, pour influencer les comportements, par exemple en taxant les produits nocifs pour la préservation de la santé physique et humaine, et même l'environnement. Donc, en résumé, les auditeurs et auditrices de Boulogne 3 doivent savoir que les taxes sont des prélèvements obligatoires effectués par l'État ou d'autres collectivités publiques pour financer les dépenses publiques et les services publics. Elles peuvent avoir différents objectifs et elles peuvent être utilisées pour influencer les comportements et réduire les inégalités disponibles existantes dans un contexte. Maintenant, lorsque nous l'avions dit, sachant bien évidemment que la taxe sur la vérification à l'importation est entrée en vigueur le 1er juillet dernier au Cameroun, question de savoir qu'est-ce que c'est concrètement, Nadine, nous disons tout simplement à l'endroit des auditeurs, auditrices de volume 3 que la taxe sur la vérification à l'importation est une nouvelle taxe applicable aux véhicules d'occasion importés au Cameroun, c'est-à-dire les congelés comme nous l'avions souvent appris antérieurement, c'est-à-dire les congelés qui sont importés par des compatriotes pour pouvoir être utilisés par les ménages ou les résidents sur le territoire camerounais. Et cette taxe sur la vérification sera entrée en vigueur le 1er juillet dernier. Et concrètement, elle s'élèverait à 29 813 francs CFA, c'est toute taxe, en fait, toute taxe sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire la TVA comprise, pour chaque véhicule d'occasion ou chaque congelé importé. Et elle engloberait les frais d'inspection et de contrôle effectué par la Société Générale de Surveillance, c'est-à-dire la SGS, et le contrôle d'identification obligatoire via le guichet unique du commerce extérieur. Et de façon assez précise, c'est une taxe dont le montant est estimé, comme l'avions dit tantôt, à l'endroit du auditeur auditrice de volume 3, à 29 813 francs CFA, toute taxe sur la valeur ajoutée comprise. Et elle est indexée, en fait, elle est appliquée aux véhicules d'occasion importés au Cameroun. Et l'objectif même de la mise en vigueur, ou bien en fait la mise en pratique ou l'implémentation de cette taxe, consiste à renforcer les contrôles à l'importation dans l'optique de mieux encadrer le parc automobile d'occasion et accroître les recettes fiscales. Et de façon assez précise, les modalités de paiement sont confondues, on a dit, nos versements via le guichet unique du commerce extérieur. Donc, les auditeurs auditrices de volume 3 doivent savoir que cette taxe s'ajouterait à la TVA estimée à 19,25% déjà appliquée sur la valeur du véhicule lors de son entrée sur le territoire national, ce qui pourrait alourdir les coûts de dédouanement pour les importateurs et les consommateurs. Pardon. Et cette taxe va-t-elle vraiment avoir un impact élevé sur le coût des véhicules? Nadine, à cette question-là, il est aussi important de savoir que la taxe sur la vérification à l'importation récemment mise en place ou implémentée au Cameroun pourrait avoir un impact significatif sur le coût des véhicules, notamment les véhicules d'occasion ou bien des congélés, comme on l'appelle vulgairement, dans les quartiers camerounais, spécifiquement les quartiers populaires. Et cette taxe se libérait, comme nous l'avions dit, à 29 813 francs CFA, la TVA comprise, pour chaque véhicule importé. Et à cet effet, s'agissant de cette taxe, les auditeurs devraient savoir que, de façon assez précise, Nadine, que cette taxe s'ajouterait à la TVA de l'ordre de 19,25% déjà appliquée sur la valeur du véhicule lors de son entrée sur le territoire national. Et cette taxe a également même un impact sur les prix, d'autant plus que elle est confondue à, en fait l'impact ici est confondu, serait confondu à l'augmentation des coûts de dédouanement qui sont susceptibles d'entraîner une hausse des prix des véhicules sur le marché camerounais. Et les auditeurs auditrices devaient savoir que cette mesure viserait à renforcer les contrôles à l'importation dans le but d'améliorer la qualité des véhicules importés et accroître les recettes fiscales de l'État camerounais. Et cela se ferait notamment sans conséquences potentielles. D'autant plus que, en fait, potentiel assimilé à un impact réel qui dépendrait de divers facteurs, notamment la manière dont les importateurs et les consommateurs absorberont ces coûts supplémentaires. Donc, lorsque nous avions dit, il est essentiel de noter que les droits de douane applicables aux véhicules dépendent de leur catégorie et de leur valeur en douane. Les importateurs doivent donc se conformer aux réglementations douanières en vigueur pour éviter les pénalités et les retards. Et de façon assez précise, La pertinence de la taxe sur la vérification au Cameroun est un sujet débattu. Et cette taxe qui s'élève, comme nous l'avions dit, à 29 813 francs par véhicule d'occasion importé viserait, comme nous l'avions également précisé anteriorement dans notre propos, à renforcer les contrôles à l'importation, améliorer la qualité des véhicules importés et accroître nécessairement les recettes fiscales de l'État camerounais. Et Nadine, cette taxe en réalité mériterait également d'être mise en œuvre, d'autant plus qu'elle faciliterait le contrôle qualité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle permet de mieux encadrer le parc automobile d'occasion, réduisant ainsi les risques liés à l'importation des véhicules défectueux ou non conformes sur le territoire camerounais. Et cette taxe également suscite l'augmentation des recettes fiscales. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle génère des revenus supplémentaires pour l'État camerounais. Et ces revenus qui peuvent être utilisés pour financer des projets de développement. Et nous savions, Nadine, que le Cameroun a besoin suffisamment de recettes financières pour, à cet instant précis, pour faire face à ses dépenses publiques. Et au-delà de recettes financières, également, cette taxe faciliterait également la rationalisation du marché. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, elle pourrait inciter les importateurs à se tourner vers des véhicules de meilleure qualité, ce qui pourrait améliorer l'état général du parc automobile camerounais, qui laisse à désirer. Mais à côté de ça, il est aussi important que Nadine nous manifeste un peu les inquiétudes et les critiques suscitées à l'endroit de cette taxe, déjà liées au niveau de les inquiétudes et critiques liées au niveau de l'augmentation des coûts, l'impact sur les petits importateurs, le manque de concertation. Mais s'agissant spécifiquement de l'augmentation des coûts, c'est important que les auditeurs retiennent que cette taxe s'ajouterait à la TVA de l'ordre de 19, qui est déjà estimé à 19,25, déjà appliqué sur la valeur du véhicule, ce qui pourrait entraîner une hausse ou une augmentation des prix pour les consommateurs. Et ajoutant à ça, il est aussi important que les auteurs de volume retiennent que les professionnels du secteur craignent que cette mesure ne pénalise les petites entreprises et les consommateurs modestes qui pourraient avoir du mal à absorber ces coûts supplémentaires. Et en dernier ressort, certains acteurs également du secteur dénoncent le manque de consultation avant la mise en place ou bien l'implémentation de cette taxe, ce qui pourrait rendre difficile son application. Donc, Nadine, en fin de compte, la pertinence de cette taxe dépendrait de son impact réel sur le marché automobile camerounais et de la manière dont les revenus générés seront utilisés par l'État du Cameroun.
L'expert dans Classico.
Plus besoin de radio seulement. Tu peux continuer d'écouter ton émission préférée via l'application Volume 3 Cameroun.
Bienvenue au Classico.
Est-ce que c'est vrai que, au moins pour les objets d'art, c'est beaucoup plus les étrangers que les locaux qui sont les clients habituels?
Au fait, parlant des objets d'art, les objets d'art sont variés. Mm-hmm. Même les ustensiles de cuisine font partie des objets d'art. Bon, maintenant, les expatriés s'intéressent beaucoup plus aux objets d'art de décoration. Mm-hmm. Ça ne voudrait pas pourtant dire que les citoyens du terroir ne s'intéressent pas aussi, parce que le pouvoir d'achat ne leur permet pas. Ils s'intéressent, mais maintenant, à acheter. Alors, ils peuvent apprécier.
C'est pour ça qu'il faut encore arranger un peu les prix, c'est ça? Pour que tout le monde puisse avoir un masque déchet prestige d'Afrique pour décorer son bureau, sa maison.
On se bat tous les jours pour le faire parce que c'est pas déjà chose aisée. Nous avons plusieurs obstacles. Il y a le coût du transport, le carburant qu'on augmente, ça affecte le coût du transport automatiquement. Mm-hmm. Il y a l'accès au bois qui n'est pas toujours chose aisée.
Oui.
Il y a aussi les coupures d'électricité qui ne nous rend rendre pas la tâche facile.
Oui.
Certes, il y a la passion, mais au-delà de la,
il n'y a pas l'argent.
Au-delà de la passion, il faut aussi l'argent.
Donc, il n'y a pas l'argent.
Mais
ma question est simple. Donc, il n'y a pas l'argent.
Non, j'ai pas dit.
Ceux qui veulent éventuellement venir se former là, de laisser.
Non, j'ai pas dit qu'il n'y a pas l'argent. Moi, justement, je m'en sors. Si tu ne payes pas les factures, c'est que je... Parce que là, c'est le plus dur, hein. Il faut payer les factures.
Retrouvez Nadine Nangué de lundi à jeudi entre 10h et 12h. Seulement sur Volume 3. Classico, l'aéroport de l'économie, de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Le passager du jour dans Classico.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez seulement maintenant. Après cette pause, il est temps aujourd'hui de vous emmener à la découverte de notre passager du jour.
Aujourd'hui, c'est en plein cœur du quartier d'Eido que je vous emmène à la rencontre de notre passagère du jour. Nous sommes précisément au quartier d'Eido Plage et d'après l'environnement qui m'entoure, vous ne sauriez dire exactement où je vous emmène. Je vous emmène dans un univers très coloré où justement la vie, c'est la mode. Suivez-moi. Quand on parlait d'un univers où la mode règne, je vous dis aujourd'hui que je vous emmène chez Tiffro à la rencontre de notre passagère du jour qui n'est autre que Roselyne Fugila. Bonjour.
Bonjour Nadine.
C'est un plaisir d'être chez vous aujourd'hui.
Plaisir partagé.
Voilà, aujourd'hui on va découvrir un tout petit peu votre univers, vos créations, ce parcours qui, ma foi, commence d'une manière assez inattendue en 2015.
Oui.
Parce qu'il y a une formation en marketing et tout ça, une vie professionnelle en tant que commerciale. Et puis, en 2015, changement de cap. C'est quoi le déclic? Pourquoi?
Je pense que le déclic a toujours été là. On va dire que c'était le moment où j'ai eu le plus de courage. Parce que le déclic, il est là depuis, on va dire, l'âge de la raison, depuis aussi longtemps que je sais ce que j'ai envie de faire dans mon avenir. C'est toujours, j'ai ça, toujours été ça, ce que j'ai eu envie de faire. Et ce qu'il fallait faire, c'est avoir assez de courage pour se lancer.
Donc quoi, comme d'habitude, on a fait des études dans un parcours classique pour faire plaisir aux parents et tout ça, ou bien quand même on se dit qu'il faut avoir une formation pour pouvoir faire ce qu'on veut après par passion?
Bon, je vais dire que j'avais pas assez de courage pour affronter les parents à l'époque. Pas qu'ils étaient stricts, disons que j'avais pensé à leur place en me disant que très certainement ils ne devaient pas être ravis d'apprendre que au lieu de faire les études, les grandes études entre guillemets qu'ils avaient prévues pour moi, je choisirais de partir faire de la couture.
Ouais, comme on disait, la série C à l'époque, c'était pas assez prestigieux.
Exactement.
Justement, dans notre environnement, on ne parle pas assez de reconversion professionnelle.
Oui.
Mais quand on décide après, justement, un parcours académique, un joli parcours professionnel également, d'emprunter le chemin de la série C, comme on dit après, comme on dit au quartier, comment ça se passe? On pèse le pour et le contre. La décision s'est prise du jour au lendemain.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, la décision ne s'est pas prise du jour au lendemain. Ça a toujours été ce que je veux faire dans la vie. J'ai toujours su que je voulais être une grande styliste modéliste. Je ne savais pas comment. Mais disons qu'en fonction de ce que j'ai rencontré sur ma route, j'ai pris des décisions, mais toujours dans le sens du rêve que j'avais. Donc voilà. Et à partir de là, j'avais pas un schéma arrêté. Je me suis dit, fais les études telles que tes parents ont prévu. Raison pour laquelle, après mon baccalauréat, j'ai eu le concours d'une business school. Je peux la citer.
Les SEC?
Pas,
ouais. On peut citer
les SEC, oui. J'ai eu le concours d'une business school. Naturellement, j'y suis allée et j'ai choisi des filières qui, pour moi, en termes de projection, étaient des filières qui n'allaient pas trop m'absorber.
Ouais.
Oui, parce que c'est comme ça que je faisais mes choix académiques. Donc, je choisissais toujours des filières qui allaient me permettre de me déployer en tant que styliste. Donc, des filières pour lesquelles j'allais avoir du temps pour l'activité que j'avais envie de faire. C'est la raison pour laquelle, après l'obtention d'un bac D, j'ai choisi les études de management au lieu d'aller faire médecine.
Choix parental encore.
Exactement. Donc voilà. Et dans le parcours de ma formation académique, on va dire ça comme ça, et bon, je me suis laissée entraîner par le vent.
Justement, durant toutes ces années-là, en nourrissant cette passion, est-ce qu'à un moment donné, quand même, vous flirtez avec la machine à coudre ou pas du tout?
Si, je flirtais avec la machine à... Bon, on va dire avec l'aiguille, parce qu'à l'époque, je n'avais pas les moyens de m'acheter une machine à coudre et je n'avais pas non plus le courage de demander à mes parents de m'en acheter. Donc, je me débrouillais avec une aiguille, du fil, et tout ce que je le faisais à la main.
C'était quoi? En leur raccommodage au quartier, on essayait de faire des créations entièrement
faites. Les vêtements que je portais, pour aller à l'école, je les faisais à la main. Bon, pas complètement tous, mais la plupart. Et ce que je portais lorsqu'il y avait des événements, parce que dans notre école, à l'époque, on avait pas mal d'événements. Mm-hmm. Ce que je portais pour aller à des événements, ce que ma sœur portait pour aller à des événements, parce qu'à l'époque, je vivais avec ma grande sœur. Donc, c'était ça. Je les faisais à la main. Mm-hmm. Oui.
D'accord. Quand vous prenez la décision de finalement vous lancer dans votre passion,
oui,
vous en parlez à qui en premier?
À mon père.
Réaction?
Bon, c'est bizarre, mais mon père a toujours été quelqu'un d'assez ouvert. C'est quelqu'un qui nous a toujours dit qu'il nous accompagnerait vers le chemin qu'on choisira. Pas forcément qu'il te soutient, pas forcément qu'il a confiance en tes décisions, mais... Il se dit, bon, c'est mon enfant, elle a choisi ça et c'est mon devoir de faire de l'accompagner. Et aussi parce que mon père fait partie des personnes dont j'ai toujours envie d'avoir l'approbation.
Oui. Donc s'il avait dit non, ça n'aurait été pas question.
Non, pas du tout. Disons que je ne m'attendais pas à ce qu'il dise non.
Okay.
Je savais qu'il allait dire oui, et je savais également qu'il allait apporter ses réserves, il allait me donner des conseils, parce que lui aussi étant entrepreneur, donc c'est quelqu'un qui sait un peu à quoi ressemble cet univers, et c'était la personne la mieux placée, et mon modèle aussi, soit dit en passant.
Quand on a, on va dire quoi, une posture, un statut dans un monde professionnel assez huppé, bien placé et tout ça, quand les ex-collègues apprennent que finalement on vire vers la couture, on se dit pas un peu, elles se dévalorisent? Vous avez des retours de ce type-là dans l'entourage de manière générale?
Bon, je vais dire que les gens n'étaient pas très surpris. Parce que tout ce que j'ai toujours fait, la façon dont je l'ai fait, a toujours donné cette information-là aux gens que c'est ce que je veux faire ou je vais finir par le faire. Donc, ils n'ont pas été surpris parce que j'ai choisi cette voie, mais surpris quand même que ce soit mon plan A. Parce que la plupart des gens qui, je ne vais pas dire me décourageaient, bon, me conseillaient à cette époque, sur comment est-ce que je pouvais manager la passion et le travail que je faisais déjà. Il me disait, fais de la couture ton plan B et bah, tu as un boulot et à la fin du mois, tu attends un salaire tranquille. C'est ça ton plan A. Et puis la couture, les week-ends étaient moments perdus. Ça va être ton plan B. Et puis à moi de leur répondre à l'époque, non. Mon plan B dont vous parlez, c'est ça mon plan A. Et le travail que je fais, c'est mon plan B. Déjà, si jamais ma passion ne me permet pas de capitaliser au point de pouvoir me permettre de vivre avec, je me rabattrai sur mon plan B qui est le travail que je fais grâce aux études que j'ai suivies.
Bah justement, pour mettre tout ça en place, on passe quand même par la case formation ou bien on continue toujours en autodidacte parce que le fil et l'aiguille se débrouillent à la maison et se lancer de manière professionnelle, c'est deux salles, deux ambiances.
Oui, ça c'est sûr. Mais je ne suis pas passée par la case formation classique. Donc j'ai toujours continué en tant qu'autodidacte parce qu'à l'époque, je travaillais. Bien évidemment, je ne me suis pas levée du jour au lendemain pour dire que bon, j'abandonne mon boulot pour commencer à vivre de ma passion. Mmh. J'ai quand même attendu que ma passion soit à un niveau où j'ai 2-3 clients avant de décider de virer complètement. Donc, je me suis débrouillée à me former pendant que j'étais encore à l'école. Ça, c'est avant de commencer à travailler. Ouais. Je visionnais beaucoup de tutos.
en regardant les tutos, on peut réussir à coudre aussi.
Oui, en regardant les tutos, la preuve.
Nous en sortons pas pour poser le bouton.
Bon, oui, ça c'est clair. Il faut dire aussi que j'ai des prédispositions naturelles. Ça, je rends grâce à Dieu pour ça. J'ai des prédispositions naturelles dont je sais me servir de mes mains avec une facilité quand même assez incroyable. Donc, je sais dessiner à la base. Mm-hmm. Je sais faire tout ce qui est manutention artistique et tout. Et la couture n'était que, on va dire, la résultante de cette capacité de base. Et maintenant, le fait de regarder des tutos, et j'ai également cette capacité naturelle à savoir analyser pas mal de choses. Donc, il suffit que je regarde et je sais pas.
Avec cette matière, avec cette matière, ça peut matcher.
Il suffit que je regarde et je sais pas, je sais le faire.
Quand Dieu a donné le don.
Exactement.
Maintenant, dans la vie de l'entreprise, il y a Naro Queen et puis il y a Tifro.
Oui.
Qui est qui porte qui est né avant qui fait quoi?
Alors, Tifro est né en premier parce que Tifro est né en 2015. Bon, qu'on va dire naître. Bon, Tifro est né officiellement en 2015. Parce qu'on part du principe que pour qu'une marque existe, il faut que tu l'enregistres. Ouais. Donc, on va dire que Tifro est né en 2015. Ça fait 10 ans d'ailleurs. Tifro est né en 2015. Et entre 2015 et 2022, parce que Naro Queen est né en 2022. Mm-hmm. Entre 2015 et 2022, j'étais seule parce que quand Naro Queen naît, ce n'est plus le même univers. Disons que ce n'est plus
vous seule à tout faire.
Exactement. À l'époque, quand Tifro est né, c'était moi qui réfléchissais, c'était moi qui portais tout le fardeau que ça représente de porter une entreprise. Mm-hmm. Et je vous épargne beaucoup des détails.
Non, mais c'est clair que dans toute activité, il y a des galères.
Voilà. Donc, ce n'était pas évident. Donc, je suis passée par beaucoup de cases, on va dire, que ce soit au niveau des employés, que ce soit au niveau des clients, que ce soit au niveau des compétences même. Mmh. Et je suis arrivée à un niveau où je plafonnais. On va dire ça comme ça, je plafonnais en termes de, même en termes de créativité, en termes de moyens, en termes de, pas que moyens financiers, hein, en termes de moyens physiques, de moyens financiers, de moyens
humains
et psychologiques aussi. Et puis, c'est à ce moment où je me suis dit, il me faut de l'aide. Il me faut de l'aide, mais pas n'importe quelle aide. Parce que choisir de cheminer avec quelqu'un, surtout dans un projet pareil, c'est mon projet de vie. C'est un projet que j'ai pensé depuis toute petite. Pas que j'ai pensé, je pense que c'est un projet que Dieu a implanté en moi depuis avant ma naissance et que j'ai nourri. J'ai nourri. Dès que l'idée a été implantée dans ma tête, j'ai commencé à le nourrir jusqu'à ce qu'il sorte, comme vous le voyez là. Et à un moment donné, comme pour revenir à ce que je disais par rapport à Naro Queen, il a fallu que je me suis sentie plafonnée par rapport à tout ce qu'il y avait à faire. Et je me suis dit, c'est le moment pour moi de chercher quelqu'un pour continuer à cheminer dans ce projet. C'est comme ça que ça n'a pas toujours été ça n'a pas été un conte de fées, mais finalement le Seigneur m'a mis sur la route qu'il fallait et a placé la personne qu'il fallait sur mon chemin. Et donc, c'est comme ça qu'on crée Naro Queen, parce que Naro Queen, qui est Naro Queen, la combinaison de nos deux noms, est reine, queen, deux reines qui portent le projet. Donc aujourd'hui on a deux reines qui portent le projet Tifro, dans Naro Queen, et depuis 2022 on chemine ensemble dans le quotidien qu'on a. Ce n'est pas toujours facile, mais ça promet.
Et jusqu'ici, ça va. Il n'y a pas eu de...
Non, pas jusqu'ici. Non, on a beaucoup de projections, mais dans tous les cas, ça va.
D'accord. Est-ce que pour vous, c'était une évidence que votre marque porterait votre nom? Parce que des fois, on a envie que la marque n'existe pas elle-même, qu'elle ne soit pas forcément associée à la personne. Est-ce que pour vous, c'était évident que ce serait Tifro? Ou bien il y a eu d'autres...
Non. C'était pas évident que ce serait Tifro. Même que Tifro, en fait, c'est un nom qui a été donné par une amie. Okay. À l'époque, Je surfais entre REF à l'époque. Parce que lorsqu'on a envie de lancer une marque de vêtements, donc, tout de suite, si on se dit, surtout qu'on est un peu plus jeune, quand on rêve de lancer une marque de vêtements, on se dit tout de suite, ah oui, je vais faire des vêtements qui portent mon nom naturellement, et aussi par rapport à ce qui se fait. Mm-hmm. Parce que ce qu'on voit, Toyota, c'était quelqu'un qui s'appelait Toyota, Mitsubishi, pareil, Mercedes. Donc, on va dans la même lancée. Mm-hmm. On va juste choisir une marque. C'était juste ça. Ouais. Mais je n'étais pas tablée sur Tifo. Et puis un jour, entre copines, on était en train de discuter sur ce que je faisais et tout. Et puis, il y a une amie qui s'est levée et qui a dit, juste comme ça, comme si c'était
une révélation.
Oui. Elle s'appelle Haïssa et je lui fais un coucou parce que je pense à elle quand je me rappelle de l'histoire. Et elle se lève et dit, t'es féro. Mais à l'époque, c'était pas l'appellation, c'était pas Tifo. Elle s'est dit, t'es féro. Je lui dis quoi, t'es féro? Elle dit, ta marque. Je pense que ça doit s'appeler t'es féro. Et puis tout le monde était là, genre, ça sonne bien. Ok, ça va pour t'es féro. Donc voilà. Et puis ça a subi des modifications. Donc c'est bref, comme un logo, quoi. Et aujourd'hui, en termes de prononciation, on est resté sur Tifo.
D'accord, j'espère que Raïssa a beaucoup de discounts quand elle vient.
Bon. On va dire qu'à l'époque, c'était le love money.
En tout cas, en termes de positionnement, Tifo, c'est plus du prêt-à-porter ou de la couture sur mesure? Parce qu'on a du mal à choisir un
à
tout petit
peu. À se retrouver. Tifo, jusqu'en 2024, c'était le sur-mesure. C'est vrai que ça nous arrivait de faire des petites capsules par-ci et par-là, mais on n'était pas positionné en tant que marque qui fait du prêt-à-porter. Ouais. Même comme l'idée de base, la vision que j'avais de Tifo, c'était une marque de prêt-à-porter. Mais une marque de prêt-à-porter, ça demande ce que ça demande en termes de mobilisation financière et tout ce que ça entraîne, pas que financière, matériel et autres. J'avais pas les moyens de mobiliser ça et aussi j'avais pas l'expérience nécessaire que j'ai pu acquérir grâce au sur-mesure, parce que à l'époque c'était plus facile de faire du sur-mesure que du prêt-à-porter, parce qu'avec le sur-mesure tu ne prends pas beaucoup de risques et tu n'immobilises pas de l'argent parce que c'est le client qui investit dans sa commande. Et après, tu prélèves juste ta marge. Et avec ça, si tu es discipliné, tu grandis comme il faut, quoi. Mais à partir de... Depuis 2024, l'année passée, notre prêt-à-porter a un an, soit dit en passant. On a décidé de mettre sur pied la marque de prêt-à-porter et de rendre des vêtements d'une certaine qualité disponibles à des prix accessibles.
Bah, justement, est-ce qu'il y a un message que vous souhaitez transmettre à travers vos créations? Comment est-ce que vous voulez que celle qui aborde une création Tifo se sente?
Élégante, d'abord.
Donc, c'est le maître mot.
Oui, quand je pense toutes les créations d'Antifro, la chose que je me dis, c'est que la personne qui doit la porter doit se sentir élégante. Parce que vous savez, le vêtement sont une armure qui nous permet de combattre le quotidien. Dit comme ça, ça a l'air cliché, mais c'est vrai. Quand on est bien habillé, on se sent bien, on est de bonne humeur. C'est difficile, la preuve. Quand tu arrives au boulot, tu es bien habillé. Pourquoi t'énerves le jour là? C'est trop dur.
Ça dépend.
Parce que tu es de bonne humeur et tu te sens, comme on dit, pour reprendre une trend, tu te sens et cette sensation te confère une immunité qu'on ne peut imaginer. Tu as l'impression d'être invincible. Quand tu es bien habillée, tu as l'impression d'être invincible. Tu te sens belle, tu te sens élégante. Tu as l'impression qu'on est en train de te dérouler un tapis rouge alors que tout ça, ça se passe dans ta tête. Donc, c'est entre tes habits et toi. Donc, c'est un peu ça.
Tu te passes quand même quand on est un peu fauché, être bien habillé.
Oui, ça remonte le moral.
Oui, vibes, comme on dit.
Exactement, ça remonte le moral. Donc, et le maître mot, comme je disais tout à l'heure, c'était l'élégance. Et je me suis dit, chaque fois que je dois créer une pièce il faudrait, même si c'est une pièce hyper simple, il faudrait que dans cette simplicité-là, on puisse toujours ressortir l'élégance. Voilà.
D'accord.
Le passager du jour dans Classico.
Classico.
Pause. Classico se passe aussi sur notre application Volume 3 Cameroun. Volume 3 Cameroun. Classico pour découvrir et célébrer la diversité des parcours de vie. Le passager du jour dans Classico.
Merci beaucoup à Tina Njongo pour ce flash d'information. Tout de suite, on poursuit notre échange avec notre passagère du jour.
Parce que moi, je suis toujours fascinée de voir le process quand on voit le petit croquis, le dessin, et de voir la réalisation. Au final, je cherche toujours, est-ce que les lignes que j'avais vues sur le dessin, c'était exactement pareil sur les plis du tissu? Est-ce que vous avez un process créatif ou bien quand l'inspiration vous vient, on prend le papier et puis on se met là?
Bon, oui, on a forcément un process créatif parce que si tu n'as pas de process, ça va un peu dans tous les sens et tu ne peux pas, surtout si tu travailles avec des gens. Si tu es seul, tu peux aller dans tous les sens. Ça, c'est ton programme, c'est ton. Mais à la minute où tu travailles avec une équipe, il faut que tu aies un process parce que là, il ne s'agit plus de nous seuls. J'ai un process, mais il y a quand même toujours la partie inspiration, la partie oh là là, parce que je me définis également comme une artiste. Et qui dit artiste dit les choses des artistes. Donc il y a les moments où je l'inspiration me vient et tout de suite je prends un papier et puis je scratch quelque chose. Enfin, je dessine quelque chose vite fait pour ne pas oublier. Et garder en quelque part les idées que j'ai eues. Exactement.
Donc, de ce que j'ai pu voir, il y a un tout petit peu des créations atemporelles. Parce qu'il y a la marinière qui revient tous les temps, coloris différents et tout ça. J'ai l'impression que c'est la pièce la plus atemporelle que moi j'ai vue jusqu'ici. Comment est-ce que ça se décide? Est-ce que c'est les chiffres de vente, les clients qui en redemandent, ou bien vous avez décidé que cette pièce-là, elle sera là tout le temps avec des coloris différents?
D'accord. Bon, à ce niveau, ce que vous devez savoir, c'est que lorsque un créateur, bon, on va dire, propose ses créations, en réalité, pour faire simple, c'est comme si je partageais mon dressing avec vous. Donc, je vous propose mes goûts. Je vous propose tout ce qui me sort par la tête et que j'aime. Vous voyez?
Ouais.
Moi, je suis une amoureuse de marinière.
D'accord.
Donc, vous êtes condamnée.
C'est pour ça que celle-là ne s'en ira jamais.
Oui, celle-là ne s'en ira. Ou du moins, pour l'instant, c'est un intemporel. Parce que je pense que la marinière... Bon, pour parler de la marinière... parce qu'il y a aussi également d'autres articles qui seront des intemporels. Vu la ligne... on va dire le style sur lequel on a choisi de se positionner dans le prêt-à-porter. Mais l'histoire avec la marinière, c'est d'abord parce que j'aime la marinière et je trouve que c'est un vêtement qui, avec sa simplicité, confère une élégance incroyable. C'est des rayures. Bien évidemment, il faut des rayures particulières. C'est des rayures, mais ce sont des rayures qui te changent ton outfit. Mais de manière incroyable. Bref, c'est élégant. J'aime l'élégance. Voilà.
Avoir un t-shirt, mais être élégant quand même.
Oui, avoir un t-shirt et être très élégante quand même.
D'accord. Maintenant, depuis que vous avez lancé le prêt-à-porter, niveau collection, comment ça s'organise? À quel rythme est-ce qu'on change? Ou bien c'est en fonction des saisons? Comment ça se décide?
Bon, à ce niveau, il faut dire que c'est quelque chose qui est difficile à peaufiner parce que c'est influencé par beaucoup d'aspects dans l'entreprise. Au départ, quand je visualisais la production dans le prêt-à-porter, je voulais partir comme ce qu'on a l'habitude de voir, parce que de toutes les manières, on est inspiré par ce qui s'est fait dans l'Occident, parce que c'est eux qui ont commencé ce truc avant nous.
Ouais.
Je voulais partir sur des collections. Et à un moment donné, je me suis sentie butée, parce que tu sors une collection... avec un nombre de vêtements bien précis, le prêt-à-porter, pour parler d'une autre en particulier, il a des prix, on va dire, assez abordables. tu sors un nombre de tenues avec une quantité, un nombre de modèles bien précis, tu te dis, ok, ça va faire 3 mois. Mais en 3 mois, ça veut dire que si tu ne sors pas de collection entre-temps, ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui est venu dans ton magasin il y a 3 mois et qu'il a acheté à peu près
tout,
bah, il n'aura plus qu'à attendre 3 mois encore.
Oui.
Tu vois un peu. Et du coup, c'était un peu limité parce que pour une entreprise, il ne faut pas qu'on se mente. Le premier objectif, c'est de rentabiliser et c'est de mettre en place des moyens de faire du chiffre au quotidien. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée à dessiner des collections un peu plus de manière récurrente et à ne plus... à dessiner des vêtements, pas des collections. Et à ne plus mettre ses et à ne plus enfermer ses vêtements dans des collections.
D'accord.
Donc, du coup, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on produit des modèles. Le rythme actuel, c'est hebdomadaire. Donc, hebdomadairement, on a de nouveaux modèles à peu près toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Soit on a de nouveaux modèles, soit on restocke les modèles intemporels. Parce que chez nous, on a des modèles intemporels. Les pantalons, il y en aura toujours. Des couleurs différentes, des coupes différentes, on en aura toujours. Des chemisiers, on en aura toujours. Donc, on peut restocker, on peut changer les motifs, mais voilà quoi.
D'accord. Est-ce qu'il y a des matières que vous préférez travailler plutôt que d'autres?
On va dire que, en termes de préférence, je ne dirais pas ça, mais on va dire que oui. On va dire qu'il y a une matière qu'on travaille plus qu'une autre actuellement, c'est la crêpe. Parce que pour moi, c'est un tissu qui a un tombé élégant en toute simplicité. Donc, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour que la crêpe rende un vêtement élégant. Mais sinon, je passe par beaucoup d'autres matières et il y a beaucoup de projets, donc je ne suis pas fermée.
D'accord.
Donc, l'avenir nous dira.
On attend de voir ce que ça va donner.
Exactement.
Tout à l'heure, vous définissiez Tifro comme pour la version prêt-à-porter, quelque chose d'assez abordable. Quand on dit abordable, la fourchette de prix sur le prêt-à-porter, on se situe entre...
Dans notre prêt-à-porter, on a des articles entre 3 000 et 30 000. On n'a pas d'article au-delà de 30 000 pour l'instant, sauf si peut-être on met en place une gamme...
Premium.
Oui, peut-être, mais pour l'instant, les articles qu'on a en magasin sont entre 3 000 et 30 000. Et des fois, on a des soldes qui peuvent être des très, très bonnes affaires. Donc, voilà.
Ceux qui aiment les soldes, là, regardez, squattez les réseaux sociaux.
Exactement.
Vous aurez la bonne information. Justement, au niveau des tailles, est-ce qu'il y a toujours le parti pris d'habiller en priorité les grandes tailles?
Disons que au début, c'est sur ça que j'étais partie. Il ne faut pas se mentir parce que j'ai fait un constat auprès des clientes que j'avais, du répertoire que j'avais, on n'avait pas beaucoup de petites tailles parce que les petites tailles trouvent facilement leur compte dans le commerce en général, peu importe la provenance. Les petites tailles trouvent facilement leur compte. Et je m'étais dit au départ, ben, positionne-toi ou du moins privilégie les grandes tailles. Mais à un moment donné, quand l'activité a commencé à prendre de l'ampleur ou du moins le prêt-à-porter, pour parler du prêt-à-porter en particulier, a commencé à prendre de l'ampleur, on n'avait pas que les grandes tailles qui s'intéressaient
aux créations.
On a commencé à avoir des petites tailles, mais quand même, ça, les grandes tailles restent les tailles les plus produites.
D'accord.
Oui.
Quand on regarde Tifro, c'est un univers très féminin. J'ai envie de demander les hommes et les enfants dans tout ça. Ça ne les concerne pas, ça ne les concernera jamais. Qu'est-ce qu'on fait?
Non, Tifro, dans la description de la marque, c'est prévu que ce soit une marque de prêt-à-porter et sur mesure pour femmes, hommes, femmes et enfants. Mais pour l'instant, nous sommes positionnés sur la gamme féminine, mais dans un futur peut-être très proche, on va commencer à distribuer, on va s'installer sur les parts de marché masculines et enfants.
D'accord, on espère que ça va arriver très bientôt parce qu'il y en a qui logiquement se disent que bon, s'il y avait la tenue masculine qui allait avec cette robe, ma foi, ce serait le match parfait.
Mais ça vient, ça vient. Donc, il faut juste mettre en place un ensemble d'outils et un ensemble d'organisations parce que la couture a l'air simple vue de comme ça, ou produit des vêtements, surtout en prêt-à-porter, ça a l'air simple vue comme ça, mais c'est une organisation assez
millimétrée.
Oui.
Aujourd'hui, est-ce que vous diriez que le prêt-à-porter a pris le pas sur la couture sur mesure chez Tiffro?
Ça dépend. Qu'est-ce qu'on entend pris le pas?
Est-ce que si on a beaucoup plus de clients en prêt-à-porter, on y consacre beaucoup plus de temps?
Forcément,
parce qu'il y a un roulement aussi.
Forcément, on a plus de clients dans le prêt-à-porter parce que le prêt-à-porter, c'est un peu plus large, c'est accessible. Et aussi, le prêt-à-porter, c'est des multiples pièces. Par contre, le sur-mesure, il y a moins de clients forcément, mais c'est pas forcément bon. Prendre le dessus, ça dépend. En termes de quantité, si c'est en termes de quantité, on va dire oui, ça prend le dessus. Si c'est en termes de chiffre d'affaires, c'est discutable. Parce que le
sur-mesure,
a un prix. Voilà. Un article du sur-mesure peut valoir, on va dire, 50 articles de prêt-à-porter. Donc, c'est pas la même chose. D'accord. Donc, prendre le dessus. Disons que chaque département se gère de manière autonome et bien distincte.
Justement, pour le sur-mesure chez Tiffro, ça se passe comment? Si on veut du sur-mesure, qu'est-ce qu'on fait? Comment on procède?
Si on veut du sur-mesure, déjà, on prend rendez-vous. On ne débarque pas. Non. Red flag. On ne débarque pas. J'insiste là-dessus. Parce que le sur-mesure qu'on offre et qu'on veut offrir pour celles qui ne sont pas encore clientes des Tiffro, c'est un sur-mesure attentionné. C'est un sur-mesure doux. C'est un sur-mesure
particulier. C'est un triple VIP.
Voilà. Et pour faire quelque chose d'attentionné, quelque chose de particulier, il faut prendre du temps. Donc, ce n'est pas que quelqu'un vient te trouver là un midi, tu t'apprêtes à aller manger le héros que tu as acheté chez mamie héros. Et puis, non, je suis venue là. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut prendre rendez-vous pour qu'on prenne la peine. Il faut prendre rendez-vous. Et puis, ça dépend. C'est tellement varié parce que ça dépend de ce que le client recherche. Donc, voilà.
Moi, je vais m'apesantir sur les robes de mariée parce que j'en connais plus d'une qui ont regardé les vidéos, les photos sur Insta et qui se disent « Est-ce que je peux passer à côté de cette création-là » Justement, pour celle-là, parce que très souvent, on s'y prend dernière minute. C'est quoi pour avoir une robe de mariée signée Tiffro? On s'y prend combien de temps à l'avance pour être sûr?
Là, sur le coup, c'est assez difficile de me prononcer parce que aujourd'hui, je peux dire 3 mois et puis un jour, une cliente arrive et dit « Mais vous avez dit que c'est 3 mois pour avoir une création Tiffro en sur-mesure, mais j'arrive, vous me dites qu'il n'y a pas d'espace. » Ça dépend du calendrier. Donc
ça, c'est pour celles qui sont déjà arrivées. Parce que quand on n'est pas encore entré, on ne peut pas être sûr que ça va passer.
C'est pour cela qu'il faut, demander. On ne mord pas les gens. Il faut demander, il faut aller vers les marques. On a un standard qui répond à toutes vos questions. Donc, si vous voulez avoir le calendrier actuel, vous appelez et puis vous vous renseignez par rapport à ça. On vous dira. Donc, en fonction du calendrier, c'est en fonction du calendrier du sur-mesure parce qu'on a un calendrier strict parce qu'il est important. Parce que l'expérience que j'ai eue, parce que j'ai plus d'expérience dans le sur-mesure que dans le prêt-à-porter. L'expérience que j'ai eue m'a permis non seulement de comprendre que l'élément le plus important dans le sur-mesure, c'est de pouvoir garantir les délais. En tout cas, je veux dire, au-delà de la qualité, parce qu'on va dire que la qualité,
ça va de soi.
Ça va de soi. Mais l'élément le plus important, c'est de garantir
le respect des délais.
Le respect des délais. Et c'est quelque chose de très compliqué. C'est quelque chose de très compliqué parce que ce métier a beaucoup d'aléas. Je ne vous parle pas des aléas techniques, je vous parle même des aléas physiques. Ça m'est arrivé souvent de ne pas être dans le bon mood pour tailler un vêtement. Sauf que lorsque vous faites une programmation, lorsque vous faites un calendrier, ce n'est pas un élément que vous prenez en compte. Sauf que c'est quelque chose qui peut vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Donc c'est quelque chose de vraiment délicat. Et compte tenu de tous ces aspects-là, c'est pour ça que le prêt-à-porter est très rigoureux. Donc, dans le respect des délais.
Et c'est pour cela que le sur-mesure.
Le sur-mesure, voilà. Autant pour moi. Et c'est pour cela que ça coûte le prix que ça coûte.
Justement, le prix que ça coûte. Quand on veut essayer de se mettre, on va dire quoi, le budget minimum de chez Minimum, en dessous duquel il ne faut même pas penser à Tifro pour le sur-mesure.
Pour le sur-mesure, peu importe ce que vous voulez faire, c'est à partir des 50 000 dans le sur-mesure. Donc, pour qu'on mobilise une ressource dans le sur-mesure, c'est à partir de 50 000. Donc, si tu veux faire une jupe dans le sur-mesure, sache que...
On a dit à partir de 50 000. Exactement. Maintenant, il faut qu'on précise, parce que tout à l'heure, on parlait de robe de mariée. Tout le monde, est-ce que ça s'applique aussi
robes de mariée
ou sur ce produit-là, c'est quoi? Parce que vaut mieux
c'est
que tout le monde
sache. C'est les tenues usuelles. C'est les tenues usuelles, parce que le sur-mesure est ouvert à toutes les envies, toutes les propositions. Quelqu'un peut avoir envie de faire sa chemise de nuit, son pyjama, ou oui.
D'accord.
On lui permet de
Donc on a dit à partir de 50, mais c'est pour les tenues qui peuvent être usuelles du quotidien, mais c'est à partir de.
C'est pour le basic.
Voilà, c'est pas le rayon mariage.
Mais non, c'est pas le rayon mariage, pas du tout.
À partir de là-bas, on commence à faire quoi? On triple, on quadruple, 50 000.
Non, pour les mariés, c'est à partir de 500 000.
Voilà. Au moins, c'est dit.
Oui, c'est dit.
Elle n'a pas caché le prix, elle vous a dit.
Non, c'est à partir.
Si votre budget, c'est le grand budget des mariages et que vous avez 500 000 à mettre dans une robe de mariée, vous pouvez demander au moins 500 000. Voilà. Au moins 500 000.
Ça dépend après de ce que la cliente veut. Donc, plus c'est complexe, plus ça...
Si vous avez au moins 500 000 à mettre dans une robe de mariée, demandez un rendez-vous chez Tifro.
Exactement.
Si ce n'est pas le cas, il y a les créateurs.
Bon, je ne dirais pas ça comme ça.
Parce que...
Je dirais plutôt que si vous êtes prêts, on se fera un plaisir de vous recevoir.
Voilà.
C'est ce que je dirais.
Avec le budget qui convient.
Exactement.
Maintenant, pour ceux qui ont du mal à se repérer, on est en plein Daido Plage. Comment on indique à quelqu'un le showroom? Parce que Daido, c'est que Daido Plage, ça peut aller de l'autre côté, ça peut aller ici.
Oui, nous sommes à Daido Plage, à la chefferie Bonamouti.
D'accord. Donc, c'est le point de repère. Si c'est ça, on dit à n'importe quel
transporteur. Oui, parce qu'on est collé à la chefferie, en fait. Et avec les clients, quand ils appellent, on peut leur envoyer la localisation. Aujourd'hui, c'est facile avec Google Maps.
Pour ceux qui s'en sortent avec ça?
Oui, pour ceux qui s'en sortent. Mais sinon, vous pouvez toujours appeler. Hein. On a des Google Maps physiques. Il y en a des brunes, des grandes, de taille, des... Non, on t'indique. Il y a toutes les voies. On t'indique en fonction de la rue et tout. Donc, on vient même te chercher. Quand tu n'arrives pas à comprendre jusque-là, on vient te chercher. Vous êtes où? Restez là.
Voilà.
On arrive. Voilà.
Le service peut venir vous chercher.
Exactement.
Jusque-là où vous vous trouvez. Maintenant, pour faire fonctionner cette entreprise-là, aujourd'hui, il y a à peu près combien de petites mains qui sont là pour vous accompagner?
Nous, on va dire environ une dizaine. On va dire environ une dizaine.
Oui. D'accord, à temps plein.
Oui, à temps plein, environ une dizaine. Donc, ça peut être plus ou moins, ça dépend.
Selon la quantité de travail.
Non, pas forcément. Après, on a un taux de turnover assez élevé dans ce milieu. Donc,
pourquoi?
Aujourd'hui...
Pourquoi il y a un turnover assez élevé?
Bon, ça, c'est un autre débat. C'est assez complexe. Ça ne dépend pas forcément de l'activité en elle-même. Je pense que c'est un problème système qui englobe un environnement beaucoup plus large que celui de notre entreprise.
D'accord. Quand je vois le niveau de sold out sur les créations, est-ce qu'il faut encore vous demander si c'est rentable?
Bon, ça va.
Comme activité.
Oui, comme toute activité. À la seconde où vous le faites de manière sérieuse, de manière disciplinée, et en essayant de mettre au maximum la qualité que vous pouvez au quotidien, c'est forcément rentable. J'ai envie de dire ça. Dans l'environnement dans lequel nous sommes. Cameroun, c'est un pays très ouvert.
D'accord, puisqu'on a parlé, on a commencé au début à parler de reconversion, c'est ce qui a un peu lancé cette activité, ce beau projet dont beaucoup de femmes peuvent profiter aujourd'hui. Pour vous qui avez déjà quand même 10 ans de reconversion professionnelle, oui, et qui, ma foi, on peut dire que c'est une reconversion réussie. Qu'est-ce, oui, que vous diriez à quelqu'un qui actuellement a envie de franchir le pas, mm-hmm, mais doute encore?
Bon.
Est-ce qu'il y a une technique pour faire une reconversion ou bien comment on procède pour que ça ne soit pas trop violent?
Bon, déjà, c'est violent. Peu importe le moment. Et j'insiste sur le moment parce qu'il y a des moments. J'ai fait ma reconversion, je venais à peine de sortir de l'école. J'ai travaillé à peine parce que je sors de l'ESSEC, je pense en 2012. J'ai travaillé à peine 2 ans. À ce moment, j'ai l'habitude de dire à des gens qui me posent la même question que je remercie le ciel d'avoir sauté le pas à ce moment-là. Parce que si je ne l'avais pas fait à ce moment, ça aurait été plus compliqué maintenant. Parce qu'à l'époque, j'étais jeune, je n'avais pas de charge. Quand je dis de charge, je dis même moi-même, je n'étais pas encore une charge pour moi-même. Je ne parle pas de charge familiale que, oui, j'ai aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je suis maman, je suis mariée. À l'époque, j'étais encore l'enfant
de mes parents.
Donc, il faut dire qu'en termes de risque, surtout que je ne voyais pas ça comme ça, parce que ma vision était assez claire. Mais pour parler du risque, en termes de risque, pour moi, il n'y avait pas grand-chose à risquer. Parce que ce n'est pas comme si j'avais une grande carrière à sacrifier. Mm-hmm. J'étais au tout début. C'était beaucoup plus facile pour moi. Mais même jusque-là, il n'y a pas une préparation. Parce que j'ai fait 2 tentatives
d'abandon de métier.
D'abandon de métier. En 2 années, j'ai fait j'ai fait 2 tentatives et c'est la deuxième qui a abouti à ce que vous voyez là. La première tentative, c'était après mon premier travail, parce que le premier travail que j'ai eu, c'était en tant que commercial. Mm-hmm. J'ai fait 1 an et je n'ai pas renouvelé mon contrat parce que c'était pas ça. Je ne me sentais pas à l'aise de, mm-hmm, toutes les façons. Donc chaque fois, je me disais toujours, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et j'ai traîné, disons, 2-3 mois là. Et j'étais là, ouais, c'était difficile. Dans les moments difficiles, j'avais trop de gens à côté de moi qui me disaient, on t'a dit non. Paf, travailler. Et puis tu vas faire là. Tu vas couper les amis le week-end, non. Ok, est-ce qu'il y a un problème? Vous voyez un peu. Et je me suis laissée entraîner dans ça parce que c'était difficile. Et puis,
quand on a un peu foiré, on se dit, finalement, j'avais un travail.
Si j'ai un travail, je n'aurais pas à m'inquiéter des fins de mois. Or, si j'ai l'activité, c'est moi, j'investis tout dans l'activité. J'investis tout ce que j'ai comme argent, tout ce que j'ai comme énergie. Parce que... Il faut parler de
gérer
cet aspect.
Les clients.
Il faut parler de cet aspect. Et... La première tentative, je suis repartie travailler.
Tranquillement.
Donc, j'ai eu un boulot. Là, c'était dans un cabinet, mm-hmm, en tant que project leader. On faisait dans le BTL, tout ce qui était déploiement, marketing, mm-hmm, sur le terrain. Et 1 an après, j'étais au même niveau. Je me suis posé la même question que l'année d'avant. J'ai eu les mêmes peurs, je me suis dit non, mais ça veut dire que ce n'est pas normal. Il faut que tu prennes une décision. Et parallèlement, mon activité que j'avais déjà commencée, Chiffreau n'existait pas encore, je n'avais pas encore enregistré la marque et tout, mais je faisais juste de bouche à oreille, mm-hmm, j'essayais de faire. Et à l'époque, là, j'avais déjà eu une machine. Mm-hmm. Et je pourrais vous raconter comment, mais je ne sais pas si je dois dire la vérité.
Si ça va causer un souci quelque part, on laisse.
Voilà. Voilà. Et là, j'avais déjà une machine à la maison. Et je travaillais, mais comme une dingue. Parce que la deuxième année où j'ai repris le boulot, là, je me suis dit, je vais faire ce que les gens disent. Je vais faire les deux. J'ai mon boulot et j'ai mon activité. J'avais déjà commencé à avoir des clients, bouche à oreille et tout. Mais... J'ai été coincée à un moment donné parce qu'il fallait choisir. Détrompez-vous, j'aimais le marketing. J'étais aussi bonne à ça. Mais ce n'était pas la chose qui me passionnait. J'aimais beaucoup le marketing. Et à cette époque, quand je faisais les deux, j'arrivais pas à être une très bonne marketiste Et j'arrivais pas non plus à être une très bonne couturière. Parce que j'étais entre les deux. Oui, à midi, je dormais pas. Je suis pas sûre que je dormais plus de 5 heures par jour, 4 heures. Parce que je rentrais du boulot, je travaillais jusqu'à minuit. Je dormais, je me réveillais à 6 heures, 5 heures. Pour les meilleurs jours, 5 heures, je travaillais et j'arrivais toujours en retard au boulot.
Un petit coucou aux ex-patrons.
Ouais. Il en a bavé quand même. Mais j'arrivais en retard parce qu'il y avait du boulot que je devais faire. Et quand j'allais au boulot, et Dieu merci, je vivais pas loin de mon lieu de travail. J'étais à 100 francs de mon lieu de travail, des fois à pied. À midi, à ma pause, je rentrais bosser sur les vêtements. Mm-hmm. Et à 18h, j'avais à fermer mon ordinateur. J'étais au niveau du portail en train d'aller suivre mon travail. Donc, vous voyez que là, j'arrive pas à être la bonne employée que j'étais pour ce cabinet. Et j'arrive pas non plus à optimiser dans la production que j'avais vis-à-vis de mes clients. Et je me suis dit, mais ma chérie, il faut choisir. Est-ce que tu choisis le marketing ou tu choisis ta passion? Bon. Le choix, c'est très vite fait. Voilà. Et j'ai choisi le marketing. J'avais peur. Si je vous dis que je n'avais pas peur, c'est que je mentirais quand même. J'ai eu peur. Mais j'ai été motivée et accompagnée. Et il faut dire aussi que ce n'est pas moi qui paye mon loyer. Donc.
C'est tout ça. Donc, autant de paramètres à prendre en compte avant de se lancer dans une reconversion professionnelle quand on n'a pas un petit pactole de côté pour le temps des vaches maigres. Sinon, ça va devenir très compliqué. J'espère que ce parcours inspirant qui est le vôtre, en l'écoutant, des jeunes filles et des jeunes garçons se diront que quoi qu'on fasse, on peut toujours à un certain moment réussir à réaliser ses rêves. On espère que leurs rêves à eux se réaliseront, qu'ils s'inspireront de votre parcours pour se dire si Roselyne Foguil l'a fait, si elle a réussi à créer sa marque et tout ça, ça veut dire que moi je peux le faire aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ce parcours avec
nous. Merci Nadine, c'était un plaisir.
Voilà. Quant à moi, on se dit rendez-vous pour le prochain vol en Classico.
Le passager du jour dans Classico.
Classico.
Pause. Classico se passe aussi sur notre application Volume 3 Cameroun. Volume 3 Cameroun.
Après ce bel échange dans lequel on a parlé de mode, de vêtements et de tout ce qui entoure un tout petit peu cet univers, nous sommes de retour pour aller directement au marché. Si vous prévoyez de faire, je sais pas quoi, de la sauce d'arachide, de la pâte d'arachide ou alors tout repas qui contienne de l'arachide, eh bien, on va dire que Vialingeya vous emmène avec lui au marché aujourd'hui.
Écomarché, tous unis contre la vie chère.
Il y a quelques jours, en discutant avec des amis après un match de football, une vendeuse d'arachides nous approche en nous rassurant que ce sont les arachides du village. On a mangé pour près de 1000 francs ce jour-là. L'appellation arachides du village m'a interpellé et je me suis demandé comment savoir si ce sont vraiment des arachides du village, comme l'affirment tous les commerçants. Curieux d'y voir plus clair, je me suis rendu au marché de Pika 14. Entre les embouteillages et les vendeurs sur le trottoir, je me faufile tant bien que mal en cherchant un vendeur d'arachides. Je finis par tomber sur l'un d'entre eux. Joël, qui exerce cette activité depuis plus de 2 ans, me donne les raisons des variations de prix sur le marché et sa provenance.
Généralement, ici, nous vendons deux types. Il y a l'arachide rouge et il y a l'arachide teinté. Généralement, notre arachide vient principalement du grand nord en général. En gros, on ne peut pas dire si c'est le bon ou pas, mais l'expérience a montré que le grand nord fournit plus d'arachide, produit en quantité. C'est-à-dire l'arachide qui est produit dans le sud, c'est-à-dire que quand il dit le sud, l'ouest en général et toutes les autres régions, ne peut pas satisfaire la population. C'est le nord en général qui satisfait le sud en ce qui concerne l'arachide. Puisque l'arachide de l'ouest est plus consommé étant frais, mais n'arrive pas à l'état sec comme ça là. Oui, l'arachide, c'est un truc qui n'a pas un prix fixe. Ça varie en fonction des périodes. C'est-à-dire, plus l'arachide vient de sortir, c'est moins cher. Plus on avance dans l'ancienneté, ça devient de plus en plus cher. Comme à l'heure actuelle, l'arachide est bien cher.
La période où c'est moins cher, c'est quelle période?
La période où ils récoltent l'arachide au nord. Déjà, comme nous sommes en septembre aussi, oui, à partir du 20 septembre, fin septembre, il y a l'arachide du nord, le 9, on appelle ça le 9. C'est à ce moment que l'arachide est moins cher. Jusqu'à peut-être la période de fin novembre, début décembre, les prix sont abordables. Mais à partir de janvier, le prix augmente parce qu'on appelle déjà ça ancien arachide. Non, maintenant c'est cher puisque nous faisons encore dans l'ancien. Il est certain, vrai, le nouveau sort déjà, mais ce n'est pas en abondance comme l'ancien. Mais pour le moment, nous faisons encore dans l'ancien.
Maintenant, le sac, c'est combien?
Bon, ça varie. En fonction du chargement, ça ne sera pas un prix fixe. En fonction du chargement du sac qu'on achète. C'est-à-dire qu'on peut partir perdre de 75 000 à 80 000. Tu vois, donc, ça n'a pas un prix fixe. Même 65 000, tu peux trouver, mais ça dépend du chargement. Actuellement, nous sommes à 250. Rouge comme teinté, nous sommes à 250 francs la boîte. Mais ça, c'est pour les gens qui vendent sur la route, sur la chaussée comme ça. Mais dans le marché, sur les comptoirs, c'est 275 la boîte. Oui. Donc, nous sommes les plus moins chers du marché, comme je peux dire.
Et quand c'est moins cher, la boîte est comment?
Généralement, quand c'est moins cher, c'est 175. On vend 175 pour avoir de 500.
Je décide d'aller un peu plus loin dans le marché et je tombe sur maman Andréane, elle aussi vendeuse d'arachide depuis plusieurs années. Entre deux clients, elle décide quand même de m'expliquer la différence entre les différents types d'arachides et comment ils se commercialisent.
Les arachides, depuis les récoltes, c'était dur. Parce que quand on récolte l'arachide, c'est 125, 100 francs. Cette année, ça a commencé à 200. Donc la récolte n'était pas bonne. Les légumes en principe. Même la sauce, tu peux préparer. Quand tu as une grande maison, tu peux prendre une boîte de rouge et deux ou trois boîtes de teinté. Le teinté abonde, ça le jus. C'est ça qu'on prépare le plus les légumes avec.
Quand on parle de l'arachide du village, quel village on
fait? Ça dépend, hein. Tous les villages ont l'arachide. Nous, au village, on a l'arachide pour manger, ce n'est pas pour vendre. Si c'est pour vendre, tu vends pour que quelqu'un puisse s'aimer.
Les consommateurs d'arachide ne s'y trompent pas quand il faut choisir le type d'arachide qui correspond à la sauce au menu. Mais le prix reste une véritable difficulté.
Oui, une fois au marché. C'est que l'arachide était bon à l'aspect au-dessus, la peau n'était pas touchée, mais quand tu faisais bouillir à l'intérieur, tout était noir. Bon, l'arachide du village, c'est une autre qualité d'arachide qui vient, ça se couche plutôt au sol. Tandis que les autres, quand ça pousse, produit les grains, ça se tient plutôt tout droit. Donc ça produit plutôt en bas, tandis que l'arachide du village, c'est ce qui se couche au sol. Et le goût de ça est différent par rapport aux autres arachides qui sortent par exemple du nord, ou bien Toral, ou bien Ayaoundé, si je peux dire comme ça, la centre. Donc c'est différent, ce n'est pas la même chose.
L'arachide reste pourtant un aliment riche en protéines et en bonnes graisses qui contribue à la sécurité alimentaire. Mais encore faut-il savoir le consommer sans risque. Le docteur Eboué Yvan nous explique entre autres les conséquences qu'il peut y avoir s'il est mal consommé.
L'apport nutritif de l'arachide. Bon, je dirais déjà l'arachide, si je peux qualifier ça d'un aliment, est riche en protéines et en lipides. Ce sont des éléments majeurs pour une bonne alimentation. Étant donné que l'arachide est déjà riche en lipides, qui fait partie des constituants les plus riches en énergie, kilocalories, si je peux dire ça. Donc vraiment, l'arachide a un potentiel nutritif vraiment qui est élevé comparé à d'autres aliments qui, eux, seront peut-être riches plus en sucre qu'en protéines ou bien en lipides. Vraiment, je pense que l'arachide a la moyenne nécessaire des différents éléments pour pouvoir subvenir aux besoins de l'organisme. Déjà, l'arachide est un aliment, si je peux dire ça, qui, même consommé pas trop en excès, a quelques petits problèmes déjà qui peut poser, si je peux dire ça. Parce que d'après certaines études, il faut être très regardant, surtout chez les enfants, qu'on alimente pour la première fois avec des arachides. Parce que les arachides sont souvent très allergènes, peuvent provoquer souvent quelques crises d'allergie. C'est pour ça qu'il faut être très regardant quand on initie les nourrissons surtout aux arachides. C'est les arachides sont très allergènes, comme je le disais tantôt. Ce que je peux dire, c'est que dans l'organisme, de toute façon, tout excès nuit. Tout excès nuit. Donc l'arachide est sans doute un bon aliment qui contient la moyenne nécessaire, mais il n'a pas tout. Il n'a pas tous les éléments nutritifs. Donc il faudra toujours les associer à autre chose. Il ne faut pas consommer l'arachide seul. Parce que chez certaines personnes aussi, l'arachide, étant donné que c'est riche en lipides, ça peut amener des fois le mauvais cholestérol et tout ce qui va avec. C'est dans une certaine mesure, pas forcément dans tous les cas. Donc il faudra accompagner l'arachide et les autres aliments pour avoir un repas assez riche, assez complet. Comme par exemple le ndolé. Vous voyez le ndolé, il y a les arachides, il y a des légumes à l'intérieur et puis il y a un peu de tout. C'est un peu dans ce sens-là que je disais. Ouais, donc il faut accompagner, il ne faut pas toujours manger ça seul. On peut grignoter de temps en temps. C'est justement pour ça, quand on grignote, ça peut participer aussi à la prise de poids. Oui, parce que les arachides grignotés entre les repas, vraiment, ce sera très, comme je vous ai dit, c'est riche en kilocalories. Ce sera très énergétique. Donc vraiment, il faut être un peu regardant.
Filière agricole majeure au Cameroun, la seule région de l'Ouest en produit plus de 32 000 tonnes par an. Mais le marché reste instable à Garoua en raison du sac de kilo qui est passé de 33 000 francs à près de 60 000 francs CFA. Et à Yaoundé, un sac de 100 kilos peut atteindre jusqu'à 80 000 francs CFA d'après les chiffres du Minader et Afrique Green Eco en 2015. Suite à ces variations, le panier de la ménagère est menacé, mais aussi les petits vendeurs peinent à maintenir leurs bénéfices. Entre le doute sur son origine et la qualité, parfois quand il faut cuisiner le ndolé, je ressors très édifié du marché. Mais une chose est sûre, que ce soit grillé, bouilli ou en sauce, l'arachide continue à rassembler autour des saveurs simples qui traversent les générations.
Écomarché, tous unis contre la vie chère.
Merci beaucoup, Viali, pour ce tour au marché et l'apport de ce médecin, de ce nutritionniste qui dit que l'arachide, ça peut être dangereux pour les enfants, surtout quand on introduit dans l'alimentation des nourrissons. Donc, il faut faire attention. Et justement, on parlait un tout petit peu d'enfants. Il y en a qui ont fait leur rentrée ce lundi et pas la semaine dernière. C'est les tout petits de maternelle. Et notre escale aujourd'hui nous emmène à la rencontre de Madame Bébo, qui est justement enseignante de maternelle.
Escale dans Classe Éco.
Je m'appelle Madame Bébo Céline Hortense, enseignante. En tant qu'enseignante, mon rôle c'est d'enseigner les enfants et enseigner les tout petits. Donc je suis une enseignante de l'école maternelle, je suis fière de l'être. Avant ça, j'ai fait des petits métiers. Avant ça, quand j'ai laissé les classes, j'ai vendu le pain haricot. Bon, après le pain haricot, je me suis formée en dactylographie. La dactylographie, ça veut dire qu'avant, on faisait les saisies en dactylographie. Il n'y avait pas encore les ordinateurs. J'ai travaillé chez un huissier de justice, Maître Pinda Korsamba. Après ça, j'ai vu qu'avec la modernisation, la dactylographie ne payait plus. Je me suis formée à l'école normale. Donc, je suis allée à l'UNIEJ, où j'ai eu mon quatrième. Aujourd'hui, je suis enseignante. J'ai commencé à enseigner dans une école privée en Korsamba, Émilie CNPS. Oui, là-bas, j'ai fait 3 ans. Avant de rentrer sur voilà ici, j'aime d'abord les enfants. J'aime transmettre les connaissances. Quand je transmets les connaissances, je suis très contente de le faire. Parce que quand tu es un enseignant, tu as tout gagné dans la vie. C'est l'enseignant qui est le centre de la vie de tout le monde. Oui, président, tu passes d'abord par l'enseignant et je suis fière de le faire. Les journées sont un peu turbulentes et parfois très, très excitantes. Celles qui sont turbulentes, souvent je me lève, matin, je suis fatiguée, j'ai des problèmes. J'arrive à la classe, les enfants, le bavardage, je suis obligée de bavarder. Étant malade, je ne supporte pas le bavardage des enfants. La hiérarchie est là à son tour, à te donner les ordres, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est un peu marrant parfois. J'apprends à danser, j'apprends à réciter, on danse, on saute. Ce sont mes amis, quoi. Je suis contente d'être être avec eux. Parce que je vois mes bébés, mes enfants, je vois comment je transmets mes connaissances aux petits-enfants qui ne savent rien du tout. Je suis contente, je suis très contente de jouer avec eux. Oui, pour faire ce métier, il faut d'abord être maternelle. Parce que ce n'est pas tous les enseignants qui sont maternels. Parce que pour enseigner, il faut d'abord aimer. Aimer ce que tu fais d'abord et aimer les êtres humains. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas enseigner. Parce que là, tu seras un fléau pour l'enfant et ça va braquer l'enfant. Bon, les hommes peuvent faire ce métier, mais à vous dire vrai, c'est maternel, ce sont les dames. Ça correspond plus aux dames. Parce que la dame, la femme, c'est la maman, vous comprenez? C'est la maman. C'est là qui sait cajoler l'enfant, qui sait câliner, qui sait frapper quand il ne le faut pas et qui sait faire revenir l'enfant à la raison. Tu vois, il y a le moment où l'enfant élève, peut-être qu'il déchire un cahier, tu es sur le nez, tu grondes. Après, tu prends l'enfant, mon bébé, est-ce que tu vois que ce que tu as fait est bien, désolé, n'est-ce pas? La prochaine fois, ne fais plus ça. Tu sais, compris, l'enfant te comprend et tout va bien. Avec mes collègues, les relations sont assez bonnes, très bonnes même d'ailleurs. Mais parmi, vous savez, nul n'est parfait. Bon, je peux être parfaite, l'autre n'est pas parfait. Comme je peux aussi ne pas être parfaite, les autres sont parfaits. Et chacun a son habitude. Tu peux être celle-là qui aime bien la rigolade. Pendant que tu fais une rigolade avec l'autre, tu ne prends pas ça comme une rigolade. Prends ça au sérieux. Mais avec mes collègues, les relations sont très bonnes jusqu'à la hiérarchie. Avec les parents d'enfants, encore, c'est plus grave. Les relations, la maîtresse par ci, la maîtresse par là, la maîtresse de telle. Enfin, tu vois, c'est un métier noble. Tu vois, quand l'enfant vient le matin avec son parent, il vient t'embrasser. Le parent dit, tu vois, voilà la maîtresse bébé. Tu as vu la maîtresse bébé, la maîtresse. Avec les parents, les relations sont très conviviales. Quand j'étais dans ma précédente école, il y a un enfant, mais là j'étais pas maternelle, un enfant que j'ai suivi à la maternelle, qui était au primaire et que j'enseignais, j'ai essayé d'attirer l'attention de son parent par rapport à son travail en classe, mais le parent a pris ça en mal et c'est devenu tout un problème. Ça ne manque pas. Il suffit juste à l'enseignant de comprendre que bon, tu peux rencontrer des gens comme ça dans la vie. Donc tu ne gardes pas rancune parce que l'enfant, c'est ton enfant en classe, hein, parce que si tu mets ça en tête, tu ne vas pas suivre l'enfant normalement, oui. Donc quand le parent fait ça, tu bafouilles, tu fais ton travail. Bien sûr, il y a les préliminaires, que c'est à la maison qu'on doit apprendre aux enfants, tu vois. Mais c'est vrai que pour les tout petits, les bébés là, c'est plus la maîtresse. Parce que la maîtresse est obligée d'apprendre tout à l'enfant. Il y a les enfants chez eux qui ne font rien, tu vois. Le matin, on doit dire à l'enfant, va te brosser. Va faire ci, va faire ça. Et aux autres, on ne fait pas, c'est la nounou qui fait tout. Et alors, arrivé en classe, il n'y a pas de nounou. Vous voyez, il n'y a pas de nounou, c'est la maîtresse qui est là. La maîtresse est obligée de faire tout ça. Et parfois, avec les parents, c'est un peu comme les problèmes. Quand tu dis à l'enfant, fais ça, et l'enfant rentre à la maison, peut-être que tu as un peu tapé parce que l'enfant a fait les bêtises. Et le parent vient te demander pourquoi tu as tapé son enfant. Bon, tu vois, j'ai comme une maman, j'ai tapé l'enfant parce que j'ai voulu comme ça. Là, l'éducation n'est pas seulement peut-être le fait que l'enfant vienne enseigner à l'école, qu'on lui apprenne à écrire, à réciter, à lire, mais c'est aussi lui apprendre les leçons de morale, vous voyez. Et ça commence par la morale d'abord. Et bon, tu fais comprendre ça aux parents, et les parents comprennent surtout. Les difficultés, bon. C'est vrai que la difficulté majeure, c'est celle de la rémunération, vous voyez. Le travail, tu travailles plus que ce que tu reçois, tu vois. Tu ne peux pas être dans une école de luxe, comme on peut dire. Et la scolarité est chère, quoi. La scolarité est chère, mais ce qu'on te donne en retour soit minable. Mais comme notre pays est ce qu'il est, c'est difficile partout. Tu es obligé de prendre comme ça parce que d'autres te disent même que si tu ne veux pas, tu vas au quartier. Il y a ceux qui veulent même ce qu'on te donne là. Oui, c'est l'une des difficultés majeures. Non, pour ça, j'ai eu la chance d'être dans des écoles que les fondateurs ou les promotrices sont très elles ne sont pas, elles savent qu'un travail, un travail mérite un salaire et que quand tu travailles à la fin du mois, tu dois avoir ton salaire. Je n'ai jamais eu ce problème d'arriver au salaire. Ma plus grande difficulté, c'est quand les bébés chient sur eux, quand ils font caca sur eux. Tu vois, un enfant qui s'est dit, si tu peux me faire, je veux faire caca, mais tu te rends compte que l'enfant est en train de jouer. Tu ne sais pas je ne sais pas comment l'enfant a fait pour faire les selles sur lui. Mais l'enfant a fait les selles sur lui, il continue à jouer avec les selles. Tu vois, parfois tu trouves un autre, il est assis, il fait les selles, étant assis, il est assis. Tu demandes même l'enfant qui a fait le popo, qui a fait les selles, qui. Il ne te répond pas. Il faut que toi-même, tu te débrouilles à fouiller l'enfant qui a fait les selles sur lui. C'est parfois embêtant, vraiment. C'est embêtant. Il faut laver l'enfant, il faut nettoyer les selles, il faut laver les vêtements. Parce que quand un enfant fait les selles, on ne doit pas le laisser rentrer avec la saleté. Tu dois laver l'enfant, tu dois laver ses vêtements et lui faire donner les vêtements de la chambre. Le message que je pourrais transmettre aux fondateurs, aux promoteurs des écoles privées, c'est qu'un bon travail mérite un bon salaire. Vous voyez, la vie est chère. Que même ils essayent de regarder par rapport au travail que l'enseignant fait en classe. Si le salaire qu'il a à la fin du mois mérite vraiment le travail qu'il fait en classe. En dehors de ça, la vie est très chère à Douala. Qu'ils essayent de regarder peut-être les charges de l'enseignant. Vous voyez, les charges de l'enseignant par rapport à la rémunération que l'enseignant. Si l'enseignant peut s'en sortir avec ce qu'eux ils lui donnent à la fin du mois, c'est très minable. Bon, un SMIC par rapport à l'école dans laquelle je suis. Bon, je peux pas fixer un SMIC par rapport aux enseignants de la matière. Ça dépend des écoles. Vous voyez, il y a les écoles qu'on paye cher. Il y a les écoles que la pension n'est pas chère. Vous voyez, bon, ça dépend. Maintenant, s'il faut que je donne un SMIC par rapport à ça, peut-être que ça sera trop élevé par rapport à certaines écoles et moins élevé par rapport à d'autres. Le message que je peux envoyer aux jeunes filles d'aujourd'hui, c'est que la femme ne reste pas sans travailler. La femme ne doit pas rester à la maison. Aujourd'hui, toute femme est appelée à travailler. Parce que le travail, c'est le premier mari de la femme. Même pour celles qui sont mariées, l'homme ne te donne pas tout ce que tu veux. Vous comprenez? L'homme ne te donne pas tout ce que tu veux. Il faut sortir. Et ça te permet même de t'épanouir. Tu vois, quand tu sors le matin et que tu rentres le soir, ça t'épargne de beaucoup de choses au quartier. Ça t'épargne de beaucoup de maladies. Parce que en restant à la maison, tu dois réfléchir et ça sera la routine de chaque jour, tu n'auras pas de solution. Donc toute femme doit quand même chercher à se débrouiller. Commençant même par les petits métiers, comme moi je vous ai dit tout à l'heure, j'ai commencé par le pain haricot, oui, commençant même la tomate aujourd'hui, même la tomate suivant, au fur et à mesure, on commence plus bas pour évoluer. Oui. Moi, déjà, c'est dans la tête, l'épanouissement, c'est dans la tête. Si tu ne mets rien dans ta tête, tu n'auras aucun souci. Je m'épanouis très bien. Déjà parce que quand je sors le matin, je rencontre les enfants, je m'épanouis. Je suis très contente d'être au milieu d'eux. Avec mes collègues, je suis très contente d'être au milieu. Quand je rentre à la maison, je trouve mes enfants, rien de plus beau que ça. J'aime bien l'enseignement, mais dans mes projets, je n'aimerais pas finir dans l'enseignement. C'est un métier très, très difficile, comprenez. C'est un métier très, très difficile. Avec ça, si tu n'as pas la chance, tu finiras avec les maladies. Comprenez, non? Donc, je n'aimerais pas finir dans l'enseignement. Coucou, volume toi, merci.
Escale dans Classico.
Après cette escale à l'école maternelle, on va parler de l'inorection.
Tout savoir sur les dernières innovations dans Classico.
L'innovation de ce jour, elle est toute simple. On vous propose d'acheter votre ticket de bus sans tracas et c'est possible avec Safe Ride, une application dédiée. Les destinations pour l'instant sont les villes de Boya, Bamenda, Limbé, Yaoundé et l'application est disponible sur Play Store et App Store. Maintenant, on va parler d'économie sur le continent avec l'Afrique qui exporte de plus en plus de produits agricoles, thé, céréales, épices, noix. Les entrepreneurs innovent et cherchent à conquérir de nouveaux marchés, mais entre normes sanitaires, tarifs douaniers, barrières non tarifaires, le chemin de l'export reste semé d'embûches. Afrique Économie, c'est avec le concours de RFI.
Ce programme vous est proposé par notre partenaire RFI, Radio France Internationale, la radio du monde.
Antea Ibembe, avec sa société Apathy, commercialise du thé en Ouganda depuis près de 15 ans. Aujourd'hui, elle vise plus grand, le Kenya, les pays du Golfe ou encore les États-Unis. Le marché est là, elle le sait, mais un obstacle majeur l'arrête, les normes sanitaires.
On n'a pas encore démarré l'export parce que c'est très cher d'obtenir les certifications dont on a besoin. Pour la plupart des marchés, il faut la certification ISO, en plus des normes nationales propres à chaque pays. Et dans l'Union européenne, c'est encore plus compliqué car il y a encore plus de règles, par exemple sur le pH ou le taux d'humidité du thé.
La certification agriculture biologique est elle aussi très demandée par ses clients, mais extrêmement difficile à décrocher. Alors pour continuer à séduire les marchés étrangers, certains misent sur d'autres stratégies, comme Latifa Diédiou qui développe une viande végétale à base de pommes de cajou.
On est obligé en fait de passer sous fret aérien avec uniquement un certificat phytosanitaire et ça passe. Aujourd'hui, nos produits sont commercialisés de petites quantités. Non seulement nous ne pouvons pas diversifier ou répondre à certaines demandes européennes, de même qu'aussi pour la sous-région.
Autre épreuve de taille, les tarifs douaniers. Ils font grimper les coûts pour les entrepreneurs africains qui veulent vendre en Europe ou aux États-Unis. Et même à l'intérieur du continent, au sein des zones de libre-échange régionale, les barrières persistent.
Dans la communauté d'Afrique de l'Est, en théorie, nous avons une zone de libre-échange, mais les règles sont poreuses et la corruption existe. Donc tu te rends compte que même quand on te dit que c'est gratuit, il y a quand même un prix à payer et des formalités. Ils vont trouver une manière de te prendre de l'argent.
En Afrique de l'Ouest, Adjaboudi Kanté fait face au même blocage. Elle aimerait écouler ses céréales made in Sénégal dans les pays voisins, mais la libre circulation promise par la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAF, tarde à devenir réalité.
Si on paye avec les transports, on prend ça en charge. Exemple, dans mon cas, c'était au distributeur qui est en Côte d'Ivoire qui devait prendre ça en charge. Quand il va augmenter 1000 francs ou 1500 sur le prix du paquet de granola, là, il ne pourra plus faire de marge, donc il n'a pas trouvé ça intéressant.
Donc là, pour l'instant, tu vends uniquement au Sénégal ?
Uniquement au Sénégal, oui.
Résultat, malgré une croissance continue des exportations, l'Afrique reste encore marginale dans les échanges mondiaux. Le continent ne pèse que 3% du commerce international. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Ce programme vous est proposé par notre partenaire RFI, Radio France Internationale, la radio du monde.
C'est déjà terminé. Merci d'avoir été des nôtres pour ce premier vol de la semaine. Aix, bonne journée et surtout rendez-vous demain pour un nouveau vol en classe éco.
L'émission que vous venez d'écouter est une rediffusion. Est une rediffusion.
Retrouvez les émissions préférées à toute heure.
Quel que soit le temps que ça prendra, je vous retrouverai
sur volume3media.com.